Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour, bienvenue dans cette revue de presse du lundi 23 novembre 2020. Voici les titres de l'actualité. On ne sait pas où on va, ni ce que l'on sera, comment trouver le sens de sa vie, qui plus est en ce moment. Je vous donnerai les conseils d'une coach professionnelle dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, Marguerite Chevreul, conseil qu'elle a donné dans L'Invisible, numéro 120. Ni brute, ni lâche, la force au service de l'amour, voilà la vocation de l'homme aujourd'hui. Le délégué de l'association Au cœur des hommes, Bertrand Chevalier-Chantepie, nous présente cette mission. Je vous lirai l'article qu'il a donné dans L'Homme Nouveau, numéro 1723. Culture chrétienne, période troublée, nous irons en contre de Sainte Geneviève. Je vous lirai l'interview de Geneviève Chauvel qui lui a consacré une biographie intitulée Sainte Geneviève, premier maire de Paris. Interview qu'elle a donnée à France Catholique, numéro 3701. Nous commençons cette revue de presse avec une très grande question. Trouver le sens de sa vie. La crise actuelle a rendu plus aiguë encore la question du sens de notre vie. Et face à cette situation, certains de nos choix paraissent dérisoires. Alors comment mettre en adéquation le sens que nous voulons donner à notre vie et notre activité? Voici les conseils de Marguerite Chevreul. Cette question courante, parmi les trentenaires de la génération Y ou génération Y, est aujourd'hui très largement partagée par nombre de contemporains. La pandémie et les bouleversements qu'elle engendre dans notre vie ravivent toutes les craintes face à l'avenir et au changement climatique. Dans ce contexte, beaucoup remettent en question leurs choix professionnels et recherchent un emploi qui ait du sens. C'est aussi le cas de tous ceux qui sont déjà confrontés à des difficultés professionnelles, notamment en cas de burn-out, mais aussi de bore-out, c'est-à-dire ennui professionnel, et qui s'interrogent sur le sens non seulement de leur travail, mais de leur vie. Une interrogation qui se pose dès les choix d'orientation en début de carrière et qui revient à chaque transition professionnelle jusqu'au départ à la retraite. Découvrir quelle est notre vocation personnelle ou mission de vie n'est pas toujours évident. Si certains ont la chance d'avoir compris leur vocation à l'adolescence, pour beaucoup d'entre nous, cela reste obscur. C'est souvent à la suite d'un événement extérieur bouleversant nos choix que nous ressentons la nécessité de répondre à cette question et de trouver ainsi notre pourquoi et notre raison d'être. Pour cela, inspirons-nous de la célèbre phrase d'Aristote. Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. La réflexion commence par l'identification de nos talents. Ces talents sont des aptitudes spécifiques tellement naturelles que nous les manifestons la plupart du temps dans nos activités, sans même nous en rendre compte. Étudiez vos réalisations significatives. Des actions peut-être banales, mais qui vous ont apporté de la satisfaction et dont vous pouvez être légitimement fier. Vos principaux talents sont le socle de ces réalisations. Interrogez-vous aussi sur les attentes de votre entourage. Famille, amis, collègues connaissent nos talents et ne vous le disent pas. Mais ils ont sans cesse recours. Cet inventaire de vos talents permet de valider ou pas vos choix professionnels. Votre activité incorpore-t-elle ou pas ces aptitudes particulières? Si c'est le cas, vous êtes vraisemblablement à votre place. Vous réussissez dans vos activités et y êtes globalement heureux. Si ce n'est pas le cas, vous risquez de déployer beaucoup d'énergie à accomplir des tâches qui ne vous passionnent pas et d'avoir l'impression de passer à côté de votre vie, voire d'avoir raté votre vie. C'est pourquoi il est si important de prendre en compte nos talents dans nos choix d'orientation professionnelle, non seulement en début de carrière, mais aussi dans les moments difficiles. Aujourd'hui, face à l'évolution rapide des métiers, certaines compétences se révèlent obsolètes. Mais les talents sont permanents et sont le support de transitions positives vers les domaines où des possibilités d'emploi existent. Transitions accompagnées aussi par des formations spécifiques imposées par les évolutions technologiques. Plus profondément, l'inventaire de vos talents, vous tirerez le fil rouge de votre existence. Ils deviendront aussi la base de tous vos choix, Et pas seulement dans le domaine professionnel, mais pour toutes les activités qui vous rendront heureux et porteront du fruit. Et vous avancerez ainsi vers l'accomplissement de votre vocation. Nos talents ne nous sont pas donnés pour nous-mêmes, mais pour le bien commun. Ils sont destinés non seulement à se déployer, mais aussi à se partager, et constituent ainsi le terreau de notre vocation. Cette vocation est notre raison d'être, ce qui nous motive profondément, qui correspond à ce que nous sommes, à des désirs mis dans notre cœur depuis longtemps, aux aspirations les plus profondes et ainsi à ce que Dieu attend de nous. En effet, selon Benoît XVI, chacun de nous est voulu, chacun de nous est aimé, chacun de nous est nécessaire. Notre vocation prend des formes différentes tout au long de notre vie. Elle ne se réduit pas à notre activité professionnelle, elle se concrétise dans des missions particulières à certains moments. Elle peut se révéler tardivement, les difficultés et les échecs peuvent l'infléchir vers une voie inattendue. Elle peut aller plus loin que nous l'imaginons, et ce d'autant plus que nous demanderons à Dieu de nous éclairer et de nous guider. Car comme dit le pape François, dans le dessein de Dieu, chaque homme est appelé à se développer, car toute vie est vocation. Si cela vous intéresse, vous pourrez retrouver donc les conseils de Marguerite Chevreul dans L'Invisible numéro 120. Ni brute ni lâche, la force au service de l'amour, voilà la vocation de l'homme aujourd'hui. Le magazine de l'Homme Nouveau a rencontré Bertrand Chevalier-Chantepie, donc le délégué de l'association Au Cœur des Hommes. Au Cœur des Hommes est une association qui se veut soutien à l'homme et ce qui le fait homme. La masculinité est donc-t-elle en danger? Réponse de Bertrand Chevalier-Chantepie. Il me semble qu'en effet la masculinité est en danger. En ce sens que dans notre monde contemporain, les hommes ne savent plus très bien où se placer, comment exister, s'enfroisser, gêner, choquer. Il n'y a pas de parole forte en faveur d'une masculinité et d'un rapport homme-femme apaisé. Nous sommes trop souvent opposés comme ennemis et pas assez considérés comme complémentaires dans nos différences. Nous entendons aujourd'hui beaucoup parler de féminisme, assez peu de féminité. Force est de constater que les féministes sont les plus grands destructeurs de la féminité. Leur lutte est contre-productive, d'abord pour les femmes, mais aussi par effet collatéral pour les hommes qui s'en trouvent désorientés. Malmené et ayant perdu un bon nombre des clés anthropologiques, l'homme est perdu et ne sait plus si ce qu'il a au fond de son cœur est normal, si le désir pour une femme fait de lui un violeur, si la colère, suivant la vision d'une injustice, fait de lui un violent. Le monde attend que l'homme se réveille, qu'il prenne sa place pour le féconder, le faire grandir, le rendre plus beau. Nous souhaitons l'aider à y parvenir. Comment définir alors la masculinité? Plus que la masculinité, il faut se pencher sur la virilité. Il y a une définition de ce terme que j'affectionne, la maîtrise constante et la tension vers l'impossible. Je n'en ai pas trouvé de plus belle. Elle montre que l'homme, comme dans la Bible, n'a pas d'endroit où poser sa tête, et s'il se trouve dans le confort, c'est qu'il s'est endormi. La tension vers l'impossible est également une tension entre la force de l'homme, sa puissance, sa capacité à la violence et son cœur, sa fragilité, sa vulnérabilité. Il faut une maîtrise consciente, l'attention permanente à l'instant présent pour prendre les bonnes décisions. Cette définition nous invite à nous réveiller ou nous tenir éveillés et prendre conscience de notre force et de nos blessures. Blessures qui sont inéluctables puisque nous ne sommes pas blessés, nous n'avons pas besoin de sauveur. Quelles sont alors vos propositions aux hommes? Nous proposons une expérience de 3 jours qui va percuter les participants. Nous ne proposons pas de les rendre plus intelligents, mais de les réveiller. Le programme est ciselé, mis au point et amélioré camp après camp. L'objectif est de permettre un cheminement intérieur, par le biais de topos, de temps de réflexion, autour de questions qui grattent, qui remuent. De temps de partage, où l'homme se rend compte qu'il est très souvent seul dans ce qu'il vit. Réellement, l'homme a peu d'occasions d'exprimer ce qu'il ressent. Il présente généralement une façade, tout va très bien. Nous voulons rappeler que rencontrer des difficultés n'est pas normal. Si tout le monde a le même problème, peut-être ne devrions-nous pas nous cacher et avoir honte de nos difficultés, mais trouver un moyen de les affronter. Comment se passent alors les camps? Nous essayons de parler à la tête lors des topos, au cœur lors des temps d'échange et de prière, mais nous n'oublions pas le corps. À cet effet, des sports ciblés pour réaffirmer notre force, notre capacité à prendre des coups, mais aussi à en donner. Lors de mon premier camp, nous dit Bertrand Chevalier-Chantepie, j'ai compris la difficulté que j'avais à donner des coups, alors qu'en recevoir ne me posait pas de difficulté. Le rythme est intense, il n'y a pas de sieste, les téléphones portables sont absents et nous songeons même à laisser de côté les montres. Nous essayons de trouver des lieux symboliques et de beaux cadres, comme la montagne, la mer avec le mont Saint-Michel, de grands paysages. L'objectif, c'est particulièrement frappant en montagne dans les cordées, est de montrer qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Le cheminement du camp nous invite à identifier nos désirs profonds, ce qui nous freine, et nous terminons sur des engagements concrets, avec un rituel puisque l'homme a besoin de symbolique. Quels sont les profils des participants ? L'âge des participants varie de 20 à 73 ans. Il n'y a pas de profil particulier. Nous sommes ouverts à tous les hommes, quels qu'ils soient. D'ailleurs, nous ne nous définissons pas par une tendance particulière. Nous pouvons avoir autant la prière des frères qu'une messe selon la forme extraordinaire. Il est vrai que si nous avons des musulmans qui viennent, nous n'avons pas d'athées. Viennent autant ceux qui sont dans la tempête que des hommes qui s'ennuient profondément. Des groupes d'amis se motivent pour passer les 3 jours avec nous. Certains participants sont des récidivistes qui reviennent à plusieurs camps. Les fruits de ces camps se retrouvent dans les témoignages qui nous sont faits. Des pères de famille changent de vie. Certains quittent leur maîtresse. De grandes réconciliations ont été vécues. Les 3 premiers jours sont utiles et suffisants pour la prise de conscience et la mise en route. Après, nous proposons les cordées de petits groupes d'hommes qui se sont construits de manière empirique. Ne vivant pas trop loin les uns des autres, ces hommes vont se retrouver 10 fois par an, pendant 3 ans, pour travailler sur 2 axes. Dépasser sa blessure, sortir de sa zone de confort et partir en quête de ses dons, de ses talents et de son nom de gloire. La messe est proposée, des temps de prière ainsi qu'une nuit d'adoration. Il est difficile en effet d'échapper à la prière. Des prêtres sont toujours présents. Ils prennent d'ailleurs le temps d'expliquer ce qui se passe, particulièrement pour les musulmans. La source de notre action est tirée du livre d'un pasteur protestant, John Eldredge, auteur de Indomptable. Nous avons beaucoup complété son livre, principalement sur la théologie du corps, puisque nous le trouvions un peu faible. Nous nous en éloignons progressivement, parce que même si nous lui sommes reconnaissants de nous avoir mis sur les rails, il nous semble que nous avons au moins assez bien chez les catholiques. Sur le plan spirituel, nous assistons pendant nos camps à des conversions, à des changements de vie radicaux. J'ai le souvenir d'un séminariste qui, à la sortie du camp, nous a fait part de sa conversion, sa véritable rencontre avec le Christ. Vous pourrez retrouver l'article de Bertrand Chevalier-Chantepie, paru dans L'Homme Nouveau de ce mois-ci. Donc, je vous ai lu à l'instant l'association Au cœur des hommes et les activités qu'elle propose. Je vous retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale. Passons maintenant à la culture chrétienne et nous allons à la rencontre de Sainte Geneviève. Sainte Geneviève qui est considérée comme une femme politique d'exception. Geneviève Chauvel est auteure d'une biographie récemment parue aux éditions L'Archipel, une biographie intitulée « Sainte Geneviève, premier maire de Paris ». Voici l'interview qu'elle a donnée au magazine France Catholique paru ce mois-ci. Pourquoi présenter Sainte Geneviève comme maire de Paris, alors qu'à l'époque, la charge en tant que telle n'existait pas ? Elle avait la charge de curateur que lui a légué son père Sévrus à sa mort. Celui-ci était l'un des 10 membres de la curie de la ville de Lutèce et la fonction était héréditaire. Geneviève se retrouve ainsi à donner son point de vue sur des décisions municipales dès l'âge de 20 ans. Au début, les autres curateurs, tous des hommes plus âgés, la prennent de haut. Mais peu à peu, la jeune femme impose le respect. D'abord par son statut de vierge consacrée, mais aussi par le courage dont elle témoigne en des temps troublés. Quand les hordes d'Attila s'annoncent et que les habitants de Lutèce veulent s'enfuir épouvantés, il y a parmi les curateurs des collabos. Geneviève, elle, est une résistante. Elle n'a pas peur des menaces de mort. Elle réunit autour d'elle des femmes et se met en prière pour protéger la ville. Attila, apprenant que Lutèce est défendue, décide d'aller à Orléans, de franchir la Loire et de conquérir les terres wisigothes d'Aquitaine. Les Parisiens de l'époque se disent « Tiens, Geneviève avait raison ». Sa clairvoyance lui attire la bienveillance du peuple. À partir de ce moment-là, elle jouit d'un grand prestige et d'une grande autorité. Autre acte fort qui montre qu'elle est la patronne, quand Clovis veut rentrer dans Lutèce. Elle lui dit « Non, tu ne rentreras pas tant que tu ne seras pas baptisé ». Elle n'a pas le titre de mère, mais c'est tout comme. Son courage, son parfait sang-froid et sa connaissance des rouages de la politique. Elle accepte les mutations du monde. Voilà pourquoi on en fait une femme politique d'exception. Et c'est là-dessus que nous devons méditer. Geneviève ne se dit pas « les barbares arrivent, nous sommes foutus ». Elle analyse la stratégie de ses adversaires. Elle comprend très finement qu'Attila frappe d'abord les esprits avant de s'attaquer au corps. Sa réputation déclenche une telle frayeur que les villes se vident avant que les Huns arrivent. Ils n'ont plus qu'à descendre de cheval pour piller les cités. Elle remarque ensuite qu'il sera plus facile de convertir les Francs et Clovis le Ier plutôt que de lutter contre l'hérésie arienne qui fait des ravages. Les Francs sont païens. C'est tactiquement plus simple de les ouvrir au christianisme que de faire de nouveau adhérer des hérétiques à la divinité du Christ. Enfin, Geneviève a ce génie politique de comprendre que c'est en affirmant la force de l'Église catholique, sans rien renier de la romanité, que peut se construire, avec le concours des évêques, le monde qui vient. C'est ainsi que le rôle de Saint Rémy, l'évêque de Reims, fut capital dans le baptême de Clovis. Qu'est-ce que les politiques ont à prendre d'elle ? Le courage dans l'adversité, ne pas se soumettre, être fidèle à sa culture et à sa civilisation. Geneviève savait que la Gaule romaine allait être envahie par les barbares. Elle voulait quelqu'un qui puisse assurer la poursuite de la civilisation romaine et qui soit catholique. Elle fait le choix de Clovis, car il avait le profil pour garder la romanité et la civilisation qui va avec. Geneviève avait aussi cette qualité qui manque tant aux politiques d'aujourd'hui. Miser sur le temps long et être patient. Voilà, c'était l'interview qu'a donnée Geneviève Chauvel, auteure de « Sainte Geneviève, premier maire de Paris », un livre qui est paru aux éditions L'Archipel. Je rappelle notamment pour tous nos auditeurs parisiens que, raison de l'épidémie de Covid et du reconfinement, Monseigneur Aupetit prolonge l'année Sainte Geneviève jusqu'au 9 octobre 2021. Les reliques de la Sainte circulent depuis janvier dans les paroisses. Il y aura une neuvaine à Sainte Geneviève, à Saint-Étienne-du-Mont, le 3 janvier 2021 à 15h. Et dans le diocèse de Nanterre, une randonnée pédestre est prévue le samedi 9 janvier 2021. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Nous avons commencé par parler du sens de la vie. Comment le trouver en cette période si troublée ? Je vous ai lu les conseils d'une coach professionnelle, Marguerite Chevreul, conseils qu'elle a donné à l'Invisible, numéro 120. Ni brute, ni lâche, la force au service de l'amour, voilà la vocation de l'homme aujourd'hui. Je vous ai lu l'article de Bertrand Chevalier-Chantepie, article interview qu'il a donné dans L'Homme Nouveau paru ce mois-ci. Il nous rappelle la grandeur de la vocation de l'homme à travers son association au cœur des hommes. Culture chrétienne, je vous ai parlé à l'instant de Sainte Geneviève. Sainte Geneviève qui a beaucoup à faire pour nos politiques et notre pays, nous pouvons nous confier à elle. Je vous ai lu donc une interview de Geneviève Chauvel qui lui a consacré une biographie intitulée « Sainte Geneviève, premier maire de Paris ». Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie à lundi prochain.